C'est toujours bon. Écoutez, il est midi et demi, on va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre aujourd'hui autour du compositeur que l'on connaît au moins tous de nom, et peut-être c'est pour certains d'entre vous un petit peu plus, par sa musique, c'est Monsieur Mozart. Et je trouve que Mozart, on en a une image tout le temps du compositeur absolument génial, surdoué. Le film Wolfgang Amadeus a aussi installé une certaine image de ce compositeur. Et j'aimerais aujourd'hui, avec la rencontre que l'on a ensemble, vous montrer peut-être un côté un petit peu plus humain, un petit peu plus concret, et puis surtout de vous puissiez réaliser qu'est-ce que c'est qu'être compositeur au XVIIIe siècle. Et puis voilà, vous faire rentrer un peu plus dans l'intimité du personnage, parce qu'à mon sens, il y a deux façons pour rencontrer Mozart. C'est bien sûr d'écouter sa musique, ça c'est la première. La seconde, c'est de prendre connaissance d'un témoignage tout à fait précieux qu'on a à notre disposition, qui est sa correspondance. Puisqu'on a à notre disposition cinq volumes de lettres qui sont vieilles de plus de 2 siècles et qui nous disent qui était Mozart, comment il vivait, quels étaient ses rapports avec son entourage, ses collègues, et ce que la musique représentait pour lui, comment il composait. La majeure partie de ces lettres sont de Mozart, un certain nombre aussi de la personne qui l'accompagnait lors de ses voyages et qui écrivait à sa place lorsqu'il était trop petit ou trop occupé pour écrire ou qu'il ne pouvait pas encore écrire lui-même. Je vais commencer par vous présenter la famille Mozart. On a d'abord le papa, Léopold. On va souvent le citer parce que la correspondance de Mozart comprend un grand nombre de ses lettres et puis surtout parce que, eh bien, il a eu une énorme influence sur son fils, pour le meilleur et aussi pour le pire, et qu'il a complètement déterminé toute sa vie. Ensuite, il y a la maman qui s'appelle Maria Anna Pearl, et on verra qu'elle a un lien tout à fait particulier avec notre pays. Vous verrez ça tout à l'heure. Et ensuite, sa sœur, Maria Anna également. Qui s'appelait comme sa maman. Elle avait un petit surnom, elle l'appelait Nannerl. C'était sa grande sœur, elle a 5 ans de plus que lui. Et elle aussi, elle était une enfant prodige au clavier. Et toute la question de comment on vit quand on est une fille musicienne très douée à cette époque-là, eh bien, on se marie d'abord et on fait de la musique ensuite. Et puis, il y a un autre personnage qu'on va croiser, c'est sa cousine d'Augsbourg, Maria Anna Tekla, qui est surnommée la Basil. Alors Mozart est né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et très vite Léopold, son papa, se rend compte des dons exceptionnels de son fils qui ont selon lui un caractère miraculeux. Voici une première lettre de Léopold Mozart, on est à Vienne, c'est le 30 juillet 1768 et il dit ceci. Nous sommes des gens honnêtes qui faisons connaître au monde, pour la gloire de leur prince et leur patrie, un miracle que Dieu a fait naître à Salzbourg. Je dois cette reconnaissance à Dieu, sinon je serai la créature la plus ingrate qui soit. Et si je dois convaincre le monde de ce miracle, je ne peux le faire que maintenant, alors que tout le monde tourne en ridicule ce qui est miraculeux et en dénie le caractère. Il faut donc convaincre les gens. Et ce fut pour moi une grande joie que d'entendre un voltairien me dire, tout étonné, maintenant j'ai vu un miracle dans ma vie, c'est le premier. Il parle bien sûr ici du premier, du petit Mozart qu'il avait entendu jouer. Écoutez. On vient d'entendre le tout début de sa sonate pour piano qui est jouée ici sur un piano qui a appartenu à Mozart. Parce que cet enregistrement a eu lieu dans la maison natale de Mozart à Salzbourg. Donc le son du piano que vous avez entendu, c'est le son sur lequel a joué Mozart. Donc le papa Léopold se sent investi d'une mission, vous l'avez compris, qui est celle de révéler au monde entier le miracle que Dieu a accompli en envoyant son fils parmi les hommes. Léopold, c'est un homme avisé, c'est un organisateur, un homme d'affaires, et très vite, eh bien, il comprend que son fils n'intéressera les foules et les princes que tant qu'il est un enfant. Et il n'y a donc pas de temps à perdre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il est employé du prince archevêque de Salzbourg, et qu'il est à ce titre tenu de rester à Salzbourg. Voici une lettre de Léopold. Dois-je peut-être croupir à Salzbourg en espérant vaguement un meilleur sort, laisser grandir Wolfgang et me faire commander, moi et mes enfants, en attendant que j'arrive à un âge où il ne me sera plus possible de voyager, que Wolfgang grandisse et que ses mérites ne surprennent plus personne? Alors Léopold, il va braver l'autorité du prince archevêque de Salzbourg, son employeur, et il se lance avec sa famille sur les routes d'Europe. Mozart va beaucoup, beaucoup voyager. Entre l'âge de 5 ans et 25 ans, il va passer plus de la moitié du temps, c'est-à-dire plus de 10 ans, hors de Salzbourg. D'abord accompagné de toute sa famille, puis parce que les voyages coûtent cher, seulement de son papa, et pour son dernier grand voyage, seulement de sa maman. Il va visiter l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Italie. Alors il n'est pas facile de voyager à la fin du 18e, on passe des journées, des semaines dans des voitures tirées par des chevaux, les routes sont mal entretenues, peu sûres, et il est pas rare que se produise un accident. Les Mozart n'en connaîtront pas de graves, il y a aussi les maladies, les enfants tombent malades plusieurs fois, gravement, mais la Providence veille. Lettre de Léopold Mozart. J'espère que ça se terminera bien. Dieu n'abandonne jamais un honnête Allemand. Il dépend de sa bonté divine de laisser en ce monde ce miracle de la nature qu'il a bien voulu y mettre ou de le reprendre à lui. Il parle alors du petit Mozart qui était alors malade. Et c'est pas toujours facile, même quand on est investi de la grâce de Dieu, comme le croit Léopold, d'arriver à se faire entendre. Mais Léopold est tenace. Lettre de Léopold à sa femme. Il est à Milan en ce moment-là, avec son fils et sa fille. Nous n'avons pas eu le temps, la chance, d'avoir une audience chez le prince von Taxis. Je t'ai déjà dit de Mantoue que la princesse avait des lettres importantes à écrire. Le lendemain, nous y sommes retournés, mais ils étaient tous deux à l'église. Nous nous rendûmes également à l'église, et comme ils étaient de retour chez eux, nous avons suivi le carrosse à environ 50 pas, de sorte que nous étions chez eux au moment où le cocher faisait demi-tour. Mais alors que nous nous faisions annoncer immédiatement, on nous dit que le prince avait des affaires pressantes et ne pouvait nous recevoir, que nous devrions revenir une autre fois. Le visage, la voix tremblante du valet et ses paroles heurtées me prouvèrent que monsieur le prince n'avait pas envie de nous voir. Dieu me préserve de gêner quelqu'un dans ses affaires, surtout si je dois de ce fait faire un grand chemin ou payer une voiture de louage. J'ai économisé l'argent du trajet et le prince, la peur de se croire obligé de nous faire une petite politesse pour les honneurs dont il a été l'objet à la cour de Salzbourg, de la place de la part de la noblesse salzbourgeoise. Je ne t'écris ceci que pour t'informer et non parce que je le regrette, mais je ne voudrais pas non plus que quelqu'un pense à Salzbourg que j'ai manqué aux bonnes manières en omettant de rendre visite au prince. On se rend compte que c'est pas facile d'avoir accès aux personnalités. Il faut prendre rendez-vous, ça prend beaucoup de temps. Il faut louer des voitures, c'est aussi beaucoup d'argent. Et puis ces voyages sont aussi pour les Mozart l'occasion de découvrir d'autres modes de vie. On peut préciser que toutes ces lettres sont d'ailleurs un très beau témoignage de comment on pouvait vivre en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Alors comme on va pas pouvoir traiter tous les voyages accomplis par Mozart, on va s'attacher à ceux qu'il a fait bien sûr dans notre pays. À Paris. Ils vont y séjourner une première fois 5 mois à Paris et à Versailles à la fin de 1763 et au début de 1764. Léopold Mozart, dans une lettre qu'il adresse à un de ses amis, Paris, 8 décembre 1763. Plus on approche de Paris et plus les paysages sont beaux, car on voit de nombreux châteaux et des grandes allées. Ma femme s'est fort amusée à observer les paysans avec leurs cheveux noués, les gardiens de bétail en manteau blanc avec de grands manchons, les paysannes en coiffe de cou fourrure, un petit manchon à la main et un bâton sous le bras avec lequel elle pousse un âne devant elle. Vous voudriez peut-être savoir ce que je pense de Paris? Si je devais vous donner un récit détaillé, ni un parchemin de vache, ni même celui d'un rhinocéros ne suffirait. Je peux vous dire que Paris est un endroit ouvert, qui n'a pas de porte, et qui, à la périphérie, ressemble à un village. Mais cela change bien vite. Les bâtiments sont construits de façon incroyablement commode. L'hôtel particulier dans lequel nous habitons est bâti de manière si pratique que même le plus petit recoin sert à quelque chose. Rien n'est bon marché ici, sauf le vin. La chose la plus repoussante est l'eau potable que l'on tire de la Seine, qui est répugnante. Nous, nous l'avons à domicile. Nous la faisons bouillir et la laissons reposer pour qu'elle devienne plus belle. Presque tous les étrangers ont au début un peu de diarrhée à cause de l'eau. Nous l'avons tous eue, mais pas forte. Une commodité non négligeable à Paris est ce que l'on appelle la petite poste. La petite poste, par laquelle je peux envoyer toute la journée des lettres dans toutes les rues de Paris. Et en recevoir. Cela est d'autant plus nécessaire que l'on met parfois 1 heure et plus pour se rendre en certains lieux. Voilà, donc là, il parle de ce moyen de transport, de ce moyen de communication, la petite poste qui permet d'avertir les personnes que l'on va aller visiter. Il continue dans une autre lettre. Je ne puis vraiment vous dire si les femmes sont belles à Paris, car elles sont peintes contre toute nature comme les poupées de Berchtesgaden, de sorte que même celles qui sont belles à l'origine deviennent insupportables aux yeux d'un honnête Allemand à cause de cette repoussante élégance. Et puis au cours de leur voyage à Paris, les Mozart se rendent à Versailles pour y rencontrer le roi, qui est alors Louis XV. Lettre de Léopold. Si la reconnaissance est égale au plaisir que les enfants ont procuré à la cour, le résultat sera excellent. Il convient de remarquer qu'il n'est ici nullement d'usage de baiser la main des altesses royales, ni de les importuner en leur remettant des requêtes, encore moins de leur adresser la parole, au passage, comme l'on dit ici, lorsqu'elles se rendent à l'église, par la galerie ou aux appartements royaux. Il parle ici de la grande galerie de Versailles. Il n'est pas non plus usuel de rendre hommage au roi ou à quiconque de la famille royale en courbant la tête ou en faisant une révérence. Mais on reste droit, sans bouger. On a ainsi le droit de voir passer le roi et sa famille juste devant soi. Vous pouvez de ce fait facilement vous imaginer l'effet et l'étonnement produits sur les Français si imbus de leurs usages de cour, lorsque les filles du roi, dans leurs appartements, comme au passage public, se sont arrêtées à la vue de mes enfants, s'en sont approchés et non seulement se sont laissés baiser la main, mais les ont embrassés et se sont fait embrasser par eux un nombre incalculable de fois. Madame Dauphine a également fait de même. Mais le plus extraordinaire pour messieurs les Français a eu lieu au grand couvert, le soir du jour de l'an, où l'on a pu non seulement nous faire place jusqu'à la table royale, mais où mon Wolfgangus a eu l'honneur de se tenir tout le temps près de la reine avec qui il put converser et s'entretenir. Voyez donc qu'ils ont pu rencontrer le roi et aller à Versailles. Alors ce voyage en France sera suivi d'autres voyages à Vienne, en Italie, en Allemagne, et tous ces voyages entretiennent l'idée d'un enfant génial qui suscite l'admiration du plus grand nombre. Et si ces voyages empêchent Mozart d'avoir une enfance normale, entre guillemets, ces voyages permettent quand même au petit Mozart de se faire des amis. Voici une lettre de Léopold. Je vais prendre 2 petites secondes pour juste couper le son pour que ce soit plus confortable. Alors attendez, je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Et voilà. Comme ça, on sera. Voilà. Merci. Donc, le petit Mozart de se faire des amis. Voici une lettre de Léopold. On est à Milan en février 1770. Je n'ai rien à signaler, sinon que Wolfgang se réjouit tous les jours de son lit bien chauffé, qu'il n'a pas le temps de t'écrire car il compose 2 motets en latin pour 2 jeunes castrats, dont l'un est âgé de 15 ans, l'autre de 16, qui l'ont prié de leur écrire. Et comme ils se sont pris d'amitié et qu'ils ont une belle voix, il ne peut rien leur refuser. Que je regrette vivement de voir et d'entendre de tels jeunes gens tout en sachant que je ne peux pas les emmener avec moi à Salzbourg. Lorsqu'ils seront à Londres, Mozart va rencontrer quelqu'un qui est assez connu, en tout cas son nom de famille, c'est un certain Jean Chrétien Bach. Ce Jean Chrétien Bach, c'est un des fils de Jean-Sébastien Bach, et il va nouer avec lui une amitié durable. Voici une lettre de Wolfgang, cette fois-ci. Il est de retour à Paris, il est à Saint-Germain, on est le 27 août 1778, et il dit ceci. Monsieur Bach de Londres, il parle donc de Jean Chrétien, est là depuis 15 jours. Il va écrire un opéra français. Il est venu uniquement pour entendre les chanteurs, puis il retourne à Londres l'écrire et reviendra pour la mise en scène. Vous imaginerez facilement sa joie et la mienne lorsque nous nous sommes revus. Peut-être sa joie n'est-elle pas aussi sincère, mais il faut reconnaître que c'est un honnête homme et qu'il est juste envers les autres. Je l'aime de tout mon cœur. Mozart sera très triste lorsqu'il va apprendre en 1782 la mort de Jean Chrétien Bach, et il va donc même lui rendre un hommage particulier en musique en composant un concerto pour piano dont le mouvement lent reprend un thème qui avait été composé par Jean Chrétien Bach. C'est un thème présent dans l'ouverture d'un de ses opéras. On écoute un extrait de ce mouvement lent qui est donc un hommage de Mozart à un des fils de Bach. L'orchestre. Et le 23 septembre 1777, Wolfgang a 21 ans, il part pour un nouveau voyage en compagnie de sa maman cette fois-ci, puisque Léopold n'a pas eu la permission de quitter Salzbourg. Et c'est un voyage au cours duquel tout va basculer pour Mozart. Et d'abord, le rapport de Mozart avec son papa, qui a toujours été présent, qui était le grand organisateur, l'intendant, l'impresario, et qui entend conserver ce rôle, même s'il est loin. Ses lettres sont pleines de conseils sur la façon d'écrire une lettre, sur la façon d'obtenir un engagement, les économies à réaliser, puis la prière qu'il ne faut pas oublier de dire tous les jours. Rappelons que Mozart, à ce moment-là, où il entreprend ce voyage, plus de 21 ans, et puis comme tout ne tourne pas comme il l'entend, Léopold multiplie les reproches et il se fâche. Et Mozart et sa maman se rendent d'abord à Munich, puis à Augsbourg, où Mozart fait la connaissance de sa cousine, Marianna Tekla, dite la Beisle, et Mozart va entretenir longtemps une relation privilégiée avec cette cousine, à qui il le lie une sorte de complicité. Leur correspondance est pleine d'allusions coquines, grivoises, et je vais m'abstenir de vous les citer ici, parce que j'aurais un petit peu peur de choquer qui que ce soit, tellement certains passages sont tout à fait creux. Après Augsbourg, Mozart et sa maman vont se rendre à Mannheim, Mannheim où Mozart va découvrir l'amour. Lettre de Léopold à son père. Si je devais épouser toutes celles avec lesquelles je badine, j'aurais facilement 200 femmes. En fait, pour illustrer cette phrase, ben je vous propose d'écouter un air extrait de son opéra Don Juan. C'est l'air du catalogue. C'est son serviteur, Leporello, le serviteur de Don Juan, qui présente une des femmes qui est amoureuse de Don Juan, la liste de toutes les conquêtes de son maître. Voici les paroles de ce que l'on va écouter. Chère madame, voici le catalogue des belles qu'a aimé mon maître. C'est un catalogue que j'ai fait moi-même. Regardez, lisez avec moi. En Italie, 640. En Allemagne, 231. 100 en France. En Turquie, 91. Mais en Espagne, elles sont déjà 1003. Voici un extrait de cet opéra de Don Juan et cet air du catalogue. Chère madame,
il catalogo è questo,
le catalogue.
Delle belle che amo il padron mio, un catalogo lieve ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In
En
Italia
Italie,
640.
640.
In Allemagne 230.
En Allemagne, 231.
100 en France, en Turquie, 91.
100 en France, mais en Espagne. Elles sont 1003 en Espagne. Alors, bien sûr que malgré cette affirmation de ce qu'a pu dire Mozart dans cette lettre, c'est en fait d'une seule et même femme dont Mozart est amoureux à Mannheim en 1777, c'est Aloysia Weber. C'est une chanteuse à qui il trouve toutes les qualités, pour qui il écrit des airs qui lui sont spécialement destinés. C'est d'ailleurs le moment de préciser, et on aura d'autres occasions de le vérifier, que Mozart écrit sur mesure, qu'il écrit toujours sa musique pour une interprète en particulier, et qu'il va adapter sa musique aux capacités, mais aussi aux limites des interprètes à qui elle est destinée. On va écouter un air qui a été composé tout spécialement pour cette belle Aloysia Weber. Et cet air, il va répondre à la tradition de ce qu'on en appelait alors la licenza. Et cette tradition, c'était quand un artiste va rendre hommage et va prendre congé de son public en musique avant un départ pour une longue tournée. Donc en fait, c'est une façon de remercier ses mécènes, de remercier les protecteurs. Voici un extrait des paroles. Acceptez mes remerciements, aimable mécène, l'ardeur avec laquelle mon cœur vous répond, les hommes pourraient vous la dire à voix haute. Moi qui ne suis qu'une femme, je ne le peux pas. Mais croyez dans ma vie, jamais je n'oublierai vos bienfaits. Si je restais, mon désir serait de les mériter toujours. Mais patience, mon cœur restera toujours près de vous. Écoutons un extrait de cet air composé donc pour cette Aloysia Weber dont Mozart est éperdument amoureux. Acceptez mes remerciements.
Glaubt, ich bin in meinem Leben, glaubt, ich bin.
lettre de Mozart à son père, 19 février 1778. Je passe vite sur son chant, en un mot parfait. Alosia chante pour le cœur et son chant tend vers la plus admirable cantabile. Ralph lui-même, qui certes ne flatte pas, c'est un critique, a dit, lorsqu'on lui demandait son opinion la plus sincère sur cette chanteuse, elle a chanté non comme une écolière, mais comme un professeur. Mais le problème principal avec cette Alosia, c'est tout simplement qu'Alosia, eh bien, n'aime pas Mozart. Et Léopold, le papa de Mozart, qui n'a en tête que les succès de son fils à Paris, se fâche et lui ordonne de reprendre la route, et le fils va obtempérer. C'est ainsi que Wolfgang et sa maman arrivent à Paris le 23 mars 1778. C'est 4 heures de l'après-midi, et là Wolfgang va aller de désillusion en désillusion. Les Parisiens, qui s'étaient extasiés devant l'enfant prodige, vont totalement ignorer le jeune homme de 22 ans qui vient frapper à leur porte, même si bien sûr entre-temps son génie musical a beaucoup mûri. Lettre de Mozart à son père, Paris, le 1er mai 1778. Il écrit à son papa. Monsieur Grimm m'a donné une lettre de recommandation pour Madame la Duchesse de Chabot et j'y suis allé. Le contenu de la lettre visait surtout à me recommander auprès de la Duchesse de Bourbon et me faire à nouveau connaître d'elle pour me rappeler à son bon souvenir, parce qu'il était déjà venu. Mais 8 jours ont passé sans la moindre nouvelle. Elle m'avait déjà demandé de venir 8 jours après, je tins donc parole et je m'y rendis. Je dus attendre une demi-heure dans une grande pièce glaciale, non chauffée et sans cheminée. Finalement, la duchesse de Chabot arriva et me pria avec la plus grande amabilité de me satisfaire du piano qui était là, du fait qu'aucun des siens n'était en état. Elle me pria d'essayer. Je lui dis: J'aimerais de tout cœur jouer quelque chose, mais c'est impossible dans l'immédiat car je ne sens plus mes doigts tellement j'ai froid. Je la priai de bien vouloir me conduire au moins dans une pièce où il y aura une cheminée avec du feu. Ah oh oui, monsieur, vous avez raison. Ce fut toute sa réponse. Puis elle s'assit et elle commença à dessiner pendant 1 heure en compagnie d'autres messieurs, tous assis en cercle autour d'une table. Ainsi, j'ai eu l'honneur d'attendre 1 heure entière. Fenêtres et portes étaient ouvertes, j'avais mal non seulement aux mains, mais également à tout le corps et aux pieds, et je commençais tout de suite à avoir mal à la tête. Et je ne savais que faire si longtemps de froid, de mal de tête et d'ennui. Je pensais sans arrêt, si ce n'était pour Monsieur Grimm, je partirais dans l'instant même. Finalement, pour être bref, je jouais sur ce misérable, affreux pianoforte, mais le pire est que madame et tous ces messieurs n'abandonnèrent pas un instant leur dessein. Ils continuèrent au contraire tout le temps, et je dus donc jouer pour les fauteuils, les tables et les murs. Dans des conditions aussi abominables, je perdis patience. Je commençais les variations de Fischer, en jouais la moitié, et je me levais. Il y eut une foule d'éloges. Mais je dis ce qu'il y avait à dire, qu'il m'était impossible de me faire honneur sur ce piano et qu'il me serait très agréable de revenir un autre jour lorsqu'il y aurait un meilleur instrument. Elle n'en voulut toutefois pas céder et je dus encore attendre une demi-heure que son mari arrive. Lui s'assit près de moi et m'écouta avec toute son attention. Et moi, j'en oubliais le froid, le mal de tête et je me mis à jouer, malgré le détestable piano, comme je joue lorsque je suis de bonne humeur. Donnez-moi le meilleur piano d'Europe, mais comme auditeur, des gens qui n'y comprennent rien ou qui ne veulent rien y comprendre et qui ne sentent pas avec moi ce que je joue, j'y perds tout plaisir. J'ai ensuite tout raconté à Monsieur Grimm. Pendant qu'il est à Paris, il faut bien gagner de l'argent. Alors il va donner des leçons et des cours, mais il a du mal à se faire payer par, je le cite, ces idiots de français. Et puis il faut dire aussi qu'il n'aime pas beaucoup enseigner. Voici une lettre de Mozart à son père, Paris, le 7 février 1778. Je veux bien donner des leçons par complaisance, surtout si je vois que quelqu'un a du talent, de la joie ou du plaisir à m'entendre. Mais devoir aller chez quelqu'un à une certaine heure, ou l'attendre chez moi, ça m'est impossible, même si cela devait me rapporter beaucoup d'argent. Je laisse cette tâche à des gens qui ne peuvent pas faire autre chose que jouer du piano. Je suis compositeur, je ne dois ni ne peux enterrer le talent pour la composition que Dieu, dans sa bonté, m'a prodigué de telle manière, je peux le dire sans orgueil, car je le ressens plus que jamais. Et c'est ce que je ferais en prenant trop d'élèves, car c'est un métier très mouvementé. Je préférerais négliger, pour ainsi dire, le piano plutôt que la composition. Car le piano est secondaire pour moi, mais Dieu merci, c'est une chose secondaire très importante. Alors Mozart, il est quand même reconnu comme compositeur par quelques-uns de ses pairs quand il est à Paris, et il va créer une symphonie qu'il écrit pour le Concert Spirituel, qui est une association de concerts parisiennes. C'est une salle qui se trouvait dans le Louvre, et c'est à ce moment-là une des rares occasions d'un succès de Mozart à Paris. Il va composer sa symphonie dite parisienne, dont voici un extrait. Lettre de Mozart à son père, Paris, le 3 juillet 1778. J'ai dû écrire une symphonie pour l'ouverture du concert spirituel. Elle a été interprétée le jour de la fête Dieu et applaudie unanimement. Elle a donc exceptionnellement plu. Et le même jour, il écrit ceci. Après la symphonie, je me rendis tout joyeux au Palais Royal. Je pris une bonne glace, je dis le chapelet que j'avais promis et je rentrai à la maison. C'est toujours à la maison que je me sens le mieux, c'est toujours là que je me sentirai le mieux, ou chez un véritable honnête et loyal Allemand qui, s'il est célibataire, vit tout seul en bon chrétien et s'il est marié, aime sa femme et élève bien ses enfants. Je vous donne maintenant une nouvelle que vous connaissez peut-être déjà, à savoir que Voltaire, ce mécréant et fieffé coquin, est crevé, pour ainsi dire, comme un chien. Et dans cette même lettre, ce même juillet, ce même 3 juillet 1778, non, pardon, c'est une autre lettre qu'il envoie à l'abbé Franz Joseph Bullinger, qui était un ami de la famille Mozart. Et voici ce qu'il lui écrit. Très cher ami, pour vous seul, pleurez avec moi, mon ami. Ce fut le jour le plus triste de ma vie, je vous écris ceci à 2 heures du matin. Il faut encore que je vous le dise, ma mère, ma chère maman, n'est plus. Dieu l'a rappelée à lui, il voulait la voir, je le voyais clairement, et c'est pourquoi je m'en suis remis à la volonté de Dieu. Il me l'avait donné, il pouvait aussi me la reprendre. Imaginez l'inquiétude, l'angoisse et les soucis que j'ai endurés pendant ces 15 jours. Elle est morte sans s'en rendre compte, s'est éteinte comme une lumière, elle s'est confessée 3 jours avant, avait communié et reçu l'extrême onction. Les 3 derniers jours, elle délirait constamment et aujourd'hui, à 5 h 21, elle entra en agonie, perdit immédiatement toute sensation et toute connaissance. Je lui serrais la main, lui parlais. Elle ne me voyait pas, ne m'entendait pas et ne sentait rien. Elle resta ainsi pendant 5 heures jusqu'au moment où elle expira à 10h21. Il n'y avait personne hormis moi, un de nos bons amis. Et un de mes bons amis. Il m'est impossible de vous décrire aujourd'hui toute sa maladie. Je suis d'avis qu'elle devait mourir, Dieu l'a voulu ainsi. Je ne vous demande maintenant que de me faire l'amitié de préparer tout doucement mon père à recevoir cette triste nouvelle. Je lui ai écrit par le même courrier, mais seulement qu'elle est gravement malade. Je n'attends plus qu'une réponse pour m'y confirmer. Dieu lui donne force et courage. Mon ami, je suis consolé, et pas seulement maintenant, mais depuis longtemps. Par une grâce particulière à Dieu, j'avais pu tout supporter avec fermeté et calme. Lorsque son état s'aggrava, je demandai à Dieu de m'accorder deux choses. Une mort bien heureuse pour ma mère, et pour moi le courage et la force. Et Dieu, dans sa bonté, m'a exaucé et m'a fait don de ces deux grâces au plus haut degré. Je vous en prie, très cher ami, conservez-moi mon père. Donnez-lui du courage pour qu'il ne prenne pas la fatale nouvelle trop douloureusement ni tragiquement lorsqu'il l'apprendra. Je vous recommande également de tout cœur ma sœur. Allez tout de suite les voir, je vous en prie. Ne leur dites pas encore qu'elle est morte, mais préparez-les à l'apprendre. Faites ce que vous voulez, utilisez tous les moyens. Veillez seulement à ce que je puisse être rassuré et que je ne doive pas m'attendre encore à un autre malheur. Prévenez mon cher père et ma chère sœur. Donnez-moi tout de suite votre réponse, je vous en prie. Adieu, je suis votre serviteur très obéissant et très reconnaissant, Wolfgang Amadeus Mozart. Je vous rappelle juste que Mozart à ce moment-là est à Paris, ce qui signifie donc que la maman de Mozart est bien enterrée à Paris, dans un cimetière qui aujourd'hui n'existe plus. Mais si jamais vous passez vers l'église Saint-Eustache, vous savez, aux Halles, à Paris, je vous inviterai à entrer. Et dans une niche sur la travée de droite, il y a une plaque commémorative qui rappelle que la mère de Mozart est morte et enterrée chez nous, à Paris. Enfin, en tout cas, dans notre pays, à Paris. Donc, voilà, travée de droite, église Saint-Eustache, allez voir, il y a une plaque et vous reconnaîtrez le nom de la maman de Mozart. Alors, n'attendant plus rien de cette ville, eh bien, Mozart ne tarde pas à reprendre la route de Salzbourg. Mais en route, il s'arrête à Munich, puisqu'il espère toujours faire la conquête de la belle Aloysia Weber, et il déchaîne alors la colère de son père. Lettre de Léopold à son fils. Salzbourg, le 19 novembre 1778. Le principal est que tu viennes maintenant à Salzbourg. Je ne veux rien savoir des 450 louis d'or à gagner, peut-être. Ton seul but est de perdre, uniquement pour poursuivre tes plans chimériques. Je suis fatigué de tes projets par lesquels tu anéantis les meilleurs plans que j'ai si souvent élaborés, ce que tu ne comprends pas parce que tu ne peux ou ne veux pas réfléchir de sang-froid et sans préjugés. Bien sûr, souvent tu ne le peux pas parce que dans le feu de la jeunesse, tu es entraîné en un instant par des propositions flatteuses de l'un ou de l'autre. Tu prends pour de l'or tout ce qui, en fin de compte, n'est que faux métal. Tu oublies par là que ton père est ton seul véritable ami, qui doit, en toute conscience, veiller à ton bien, tant par devoir paternel, selon les commandements de Dieu, que par amour pour son enfant, qui le fera et qui le peut. Et Mozart rentre à Salzbourg, où il reste jusqu'en 1781, jusqu'à la fameuse rencontre avec le comte d'Arco. Le 8 juin 1781, en fait, Mozart était allé voir le comte, qui était l'intendant de l'archevêque, pour se plaindre de son statut de domestique, puisqu'il employait Mozart. Et Mozart n'était pas du tout content de son statut. Donc il est allé se plaindre, et le comte Arco va lui répondre d'une façon tout à fait claire. Il lui répond avec un coup de pied dans le derrière, en lui disant « Eh bien, si t'es pas content, tu pars. » Et de ce fait, Mozart, eh bien, il est libre. Il quitte Salzbourg et il s'installe à Vienne. À Vienne où, au départ, tout semble lui sourire. Des concerts, des opéras et puis un mariage. Alosia Weber ne veut pas de lui? Eh bien, il va épouser sa sœur, Constance. Mais Mozart a fort à faire pour obtenir l'autorisation de Léopold, qui n'aime pas beaucoup la famille Weber, où il y a quatre filles. Et Mozart en parle dans cette lettre. Lettre de Mozart à son père. Vienne, le 15 décembre 1781. Maintenant, quel est l'objet de mon amour? Ne vous alarmez pas, là non plus, je vous en prie. Quand même pas une Weber. Eh bien si, une Weber. Pas Josepha, pas Sophie, mais Constance, celle du milieu. Je n'ai rencontré dans aucune famille une telle disparité de tempérament. L'aînée est une personne paresseuse, méchante, et c'est une coquette. La plus jeune est encore trop jeune pour être quelque chose. Elle n'est qu'une gentille créature, mais trop légère. Dieu la préserve de la séduction. Mais celle du milieu, c'est-à-dire ma chère et bonne Constance, la martyre parmi elles, est justement peut-être pour cette raison celle qui a le meilleur cœur, la plus habile, en un mot, la meilleure. Elle s'occupe de tout à la maison, mais ne saurait les satisfaire. Oh, mon excellent père, je pourrais écrire des pages entières si je voulais vous décrire toutes les scènes qui nous ont été faites pour tous les deux dans cette maison. Elle n'est pas laide, mais elle est toutefois rien moins que belle. Toute sa beauté réside en deux petits yeux noirs et une belle taille. Elle n'a pas de vivacité d'esprit, mais suffisamment de soin, entendement pour remplir ses devoirs d'épouse et de mère. Elle n'est pas portée à la dépense, c'est absolument faux. Au contraire, elle est habituée à être mal vêtue. C'est le peu que la mère pouvait faire pour ses enfants. Elle l'a fait pour les deux autres, mais jamais pour elle. C'est vrai qu'elle aimerait bien être habillée gentiment et proprement, mais sans luxe. Elle est en mesure de faire la plupart des choses dont une femme a besoin. Elle se coiffe elle-même, tous les jours. Elle sait tenir un ménage et a le meilleur cœur du monde. Je l'aime et elle m'aime de tout cœur. Dites-moi si je peux souhaiter une meilleure femme. Mais Léopold estime que son fils a mieux à faire que de s'occuper de Constance, ce à quoi Mozart répond dans une lettre adressée à un de ses amis. J'ai récemment décrit à mon père mon emploi du temps et je le répète. À 6 heures, je suis toujours coiffé. À 7 heures, complètement habillé. Ensuite, j'écris jusqu'à 9 heures. De 9 heures à 13 heures, je donne des leçons. Puis je mange. Lorsque je ne suis pas invité, dans ce cas, on déjeune à 2 ou 3 heures, comme aujourd'hui et demain chez la comtesse Thun. Je ne peux travailler avant 5 ou 6 heures. Et souvent, je suis empêché par une académie. Sinon, j'écris jusqu'à 9 heures. Puis je vais chez ma chère Constance, où le plaisir de nous voir est généralement gâté par les discours acides de sa mère, et j'en parlerai à mon père dans ma prochaine lettre. De là mon vœu de la délivrer, de la sauver dès que possible. À 10h30 du soir ou 11h, je rentre à la maison, cela dépend de l'humeur de sa mère et de mes forces à la supporter. Du fait des académies, de l'éventualité d'être appelé ici ou là, je ne suis jamais sûr de composer le soir. Aussi ai-je pris l'habitude, surtout lorsque je rentre plus tôt chez moi, d'écrire quelque chose avant d'aller me coucher. Je le fais souvent jusqu'à 1h du matin, pour me relever à nouveau à 6h. Et Mozart va quand même finir par arriver à épouser Constance après avoir arraché le consentement de son père, mais quelque chose semble alors casser entre Mozart et son père, et leur relation sera désormais marquée par une certaine distance. Les années viennoises voient la création des grands opéras de Mozart. En 1782, c'est l'Enlèvement au Sérail. En 1786, les Noces de Figaro. Et comme toujours, Mozart travaille sur mesure. Et c'est spécialement pour la créatrice du rôle de Suzanne dans les Noces de Figaro. La chanteuse s'appelle Nancy Storace. Il va lui écrire un air pour un de ses concerts, puisqu'elle donnait aussi des concerts. Et cet air s'appelle Comment t'oublier? Voici les paroles. Que je t'oublie, tu peux me conseiller de me donner à lui et tout cela la vie durant. Oh non, la vie me serait bien triste, bien pire que la mort. Que vienne la mort, je l'attends intrépide. Mais que je puisse m'enflammer à une autre torche, à un autre objet, donner mon cœur, comment le pourrais-je? Je mourrais de douleur. Cet air est composé pour un orchestre, pour un piano et pour une voix de femme. Et lors de la création de cet air, eh bien, c'est Mozart lui-même qui tenait très probablement la partie de piano. Et il va intégrer l'œuvre dans son catalogue le 27 décembre 1786 avec la remarque « Pour Mademoiselle Storace et moi ». Tout le temps, un compositeur sur mesure qui écrit pour cet interprète, on va écouter cet air et noter la présence assez inhabituelle dans un air. On a à la fois l'orchestre et aussi un piano et aussi la voix. Imaginez au piano Mozart, en chanteuse Madame Storace et puis l'orchestre. Le piano et l'orchestre. Alors, les succès de Mozart ne lui attirent pas que des amis. Il rencontre parmi ses collègues des attitudes fort contrastées. Comme toujours, il y a les bons et puis il y a les méchants. Alors, parmi les méchants, entre guillemets, on aurait un certain Antonio Salieri qui était, nous dit-on, jaloux du succès de Mozart et qui se serait accusé au moment de mourir de l'avoir empoisonné. C'est d'ailleurs une des scènes du film d'Amadeus, mais on sait aujourd'hui que tout cela n'est pas exact. Hein. J'en parlais un petit peu plus loin. Et puis, dans le rôle du gentil, du bon, c'est plutôt Joseph Haydn, le compositeur qui tient le violon lors des séances de quatuor avec Mozart et deux autres musiciens, et à qui Mozart va dédier en 1785 une série de six quatuors à cordes qui sont dédiés à Joseph Haydn. Un quatuor à cordes, c'est une composition pour deux violons, pour un alto et pour un violoncelle, et Mozart va en composer six qu'il va dédier à Haydn, et voici un début d'extrait de lettre qu'il a écrite. Haydn, à mon cher ami Haydn, un père, il parle ici de lui, Mozart, s'étant décidé à envoyer ses fils de par le monde, il parle ici de ses six quatuors à cordes, donc des compositions qui sont dédiées à Haydn, estima devoir les confier à la protection et à la direction d'un homme alors très célèbre, qui par bonheur était de surcroît son meilleur ami. Il parle de Joseph Haydn. C'est de la même manière, homme célèbre et ami très cher, que je te remets mes six fils. Ils sont, il est vrai, le fruit de longs et laborieux efforts, mais l'espérance que m'ont donné de nombreux amis de les voir en partie récompensés m'encourage, et je me flatte à l'idée qu'ils me seront un jour de quelque consolation. Toi-même, très cher ami, lors de ton dernier séjour dans cette capitale, tu m'as exprimé ta satisfaction. C'est surtout un suffrage qui m'amène à te les recommander et me laisse espérer qu'ils ne te sembleront pas trop indignes de ta faveur. Daigne donc les accueillir avec bienveillance et sois leur père, leur guide et leur ami. Dès lors, je te cède mes droits sur eux. Je te supplie de considérer avec indulgence les défauts que l'œil partial d'un père pourrait m'avoir cachés et de préserver malgré eux ton amitié généreuse à celui qui t'apprécie tant et demeure de tout cœur ton ami très cher, ton ami le plus sincère, Wolfgang Amadeus Mozart. Vienne le 1er septembre 1785. On va écouter un court extrait d'un de ces quatuors sont donc dédiés à Haydn. Il vous faut imaginer l'appartement des Mozart, précisément le 18 juin 1783. Constance est en train d'accoucher et dans la pièce voisine, Mozart est en train de composer le deuxième mouvement de l'un de ces quatuors qu'il va dédier à Haydn, une sorte de berceuse pleine de tendresse que voici. Alors 1787, c'est l'année de la création triomphale de son opéra Don Juan. Cette histoire de Don Juan, elle débute avec l'assassinat du père de Donna Anna par Don Juan. Et 1787, eh bien, c'est aussi l'année où meurt Léopold Mozart, son père. Et il n'est pas interdit de trouver un lien entre ces deux événements, entre la mort de Léopold et puis cet opéra de Don Juan qui commence avec l'assassinat du père d'un des personnages. Alors, on a souvent dit et longtemps cru que Mozart avait été resté assez indifférent à la mort de son père. On a des courriers qui semblent montrer qu'il semblait assez distant, assez indifférent. Ce père qui, comme vous l'avez compris, l'a beaucoup contrôlé et en le présentant dans toutes les cours d'Europe. Et puis, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, en 2020, on a retrouvé des lettres de Mozart. C'est toujours fascinant de se dire qu'on continue aujourd'hui à continuer à retrouver des lettres hein, que l'on savait exister, qui ont été vendues, perdues, puis retrouvées. Dans une de ces lettres, il y en a une qui est très touchante, que Mozart a envoyée à son père quelques semaines avant son décès, le 28 mai 1787. Il est malade. Et voici ce que Mozart lui écrit. J'apprends maintenant que vous êtes vraiment malade. J'espère et je souhaite que vous alliez mieux au moment où j'écris ces lignes, mais si contre toute attente vous n'alliez pas mieux, je vous en prie, de ne pas me le cacher et de me faire savoir la vérité pure, afin que je puisse aller me blottir dans vos bras aussi rapidement qu'il serait humainement possible. Eh bien, cette lettre, elle vient contredire tout ce que l'on pouvait penser jusqu'alors de la relation entre son père et son fils. Le lien même distendu entre les deux n'en reste pas moins fort, puisqu'on ne dit pas à une personne qu'on va se précipiter pour aller se blottir dans ses bras si vraiment on a une relation compliquée avec lui. Donc cette lettre, en 2020, a changé et a remis en perspective tout ça, même si on savait que cette lettre existait déjà. Alors revenons à notre Mozart. Depuis la fin des années 1780, les difficultés se sont accumulées pour lui. On a la désaffection des Viennois pour ses concerts, des difficultés financières qui l'obligent à faire appel à la générosité de ses amis. Il se sent bien très très seul. Il le dit à sa femme dans cette lettre. Elle est en cure à ce moment-là à Baden et voici ce qu'elle lui écrit. Ce qu'il lui écrit, je me réjouis comme un enfant de te retrouver. Si les gens pouvaient voir dans mon cœur, je devrais presque avoir honte. Tout me semble froid, glacé. Si seulement tu étais près de moi, je trouverais peut-être plus de plaisir à l'attitude des gens à mon égard. Mais ainsi, tout est si vide. Adieu, chérie, je suis à jamais ton Mozart qui t'aime de toute son âme. Et puis on trouve aussi ce genre de lettre. Reconnaissance de dette. Vienne, le 1er octobre 1790. Je soussignais Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur de la cour, certifie et reconnaît par la présente pour moi, mes héritiers et descendants, officiellement et en bonne forme de droit, que Monsieur Lackenbacher, commerçant avec privilège ici même, m'a prêté à ma demande et pour couvrir mes besoins actuels un capital de 1 000 florins et me les a versés au comptant et sans aucune retenue. Je confirme par la présence non seulement avoir bien reçu ce prêt, mais m'engager, moi, mes héritiers et descendants, à rembourser ce capital au prêteur surnommé, ses héritiers ou ses cessionnaires, après 2 ans écoulés à date, sans réclamation préalable, dans la même monnaie que celle décrite ci-dessus et sans contestation, et entre-temps à verser un intérêt de 5% en même valeur et de verser ponctuellement les intérêts tous les 6 mois à Vienne, faute de quoi le remboursement du capital peut être réclamé immédiatement avec tous les intérêts et les frais. Comme garantie, tant du capital que des intérêts, je donne en gage au prêteur tout mon mobilier. Alors, il part de se remettre à donner des cours pour faire entrer de l'argent, mais ça lui plaît pas beaucoup, parce qu'il faut rembourser les dettes qui s'accumulent. On a d'autres témoignages de lettres qu'il envoie à Monsieur Puchberg, le 20 courant, donc dans 7 jours, je touche mon trimestre, voulez-vous et pouvez-vous me prêter jusqu'à cette date 20 florins et quelques? Vous m'obligeriez infiniment, excellent ami. Voilà. Donc on voit vraiment qu'il a vraiment un gros manque d'argent. C'est une des 20 lettres qu'il a écrites à cette personne, ce Johann Michael Puchberg, qui nous sont parvenues. Elle nous montre un Mozart qui est harcelé par les problèmes financiers dont on ignore l'origine. Il ne savait pas gérer son budget, mais ça n'explique pas l'importance des sommes dont il a besoin. Est-ce que ce sont des dettes de jeu, des dépenses vestimentaires extravagantes? Eh bien, on ne sait pas. Et puis le 30 décembre 1791, est créé à Vienne, au théâtre Auf der Wieden, son dernier opéra, La Flûte enchantée, et son célèbre, entre autres, Air de la Reine de la Nuit. C'est un opéra conte de fées composé pour tous les publics. On n'a pas besoin d'être initié pour se laisser entraîner dans ce monde où on découvre les chemins qui mènent des ténèbres à la lumière, de la sagesse à la beauté. On va écouter Papageno, un oiseleur, qui accompagne le héros qui s'appelle Tamino dans sa quête. Et ce Papageno, il cherche une compagne. Et voici ce qu'il dit. C'est pas sans rappeler le ton des lettres de Mozart à Constance, sa femme. Les paroles, une femme, une petite femme. Voici le vœu de Papageno. Une douce petite colombe serait pour moi la félicité.
Dann schmeckten mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein.
Et le 5 décembre de cette même année 1791, où il a été créé donc cet opéra La Flûte enchantée, 2 mois après la création de cette flûte lumineuse, eh bien Wolfgang Amadeus Mozart va mourir. Il a seulement 35 ans. Et voici ce que note Constance dans le livre d'or de son mari, Vienne, le 5 décembre 1791. Ce que tu as écrit jadis à l'intention de ton ami, je le réitère pour toi, noyant sous la douleur. Époux chéri, Mozart immortel pour moi et toute l'Europe, toi aussi tu reposes désormais à jamais. À 1 heure après minuit, dans la nuit du 4 au 5 décembre de cette année, il quitta dans sa 36e année, trop tôt ô combien, ce monde bon, certes, mais ingrat. Ô Dieu, 8 années nous unirent d'un lien affectueux et indélébile. Ô que ne puis-je être bientôt uni à toi pour toujours. Ton épouse éperdue de douleur, Constance Amadeus Mozart, née Weber. Entendre ici un court extrait de son Lacrimosa, extrait de son Requiem, de ses toutes dernières compositions qu'il n'a pas eu le temps de terminer. Il est complet aux 2/3 et c'est sa veuve Constance qui va demander tour à tour à des élèves de Mozart de terminer la partition pour honorer la commande et ainsi surtout pour percevoir la rémunération qui était promise sans avoir à rembourser l'avance qui avait été octroyée et aussi pour réhabiliter la mémoire de son mari en vue d'obtenir une pension impériale. C'est toujours cette question pressante de l'argent qui manque. Ce n'est pas Salieri qui a commandé le Requiem de Mozart ou qui aurait organisé sa mort comme dans le film Amadeus le montre. Le commanditaire du Requiem, c'est un domestique du comte Franz de Walsegg, qui souhaitait avec ce requiem honorer la mémoire de son épouse, qui était morte le 14 février de cette même année 1791. Et on en sait plus aujourd'hui sur Salieri, qui en fait a rapidement reconnu le talent immense de Mozart. Il en a certainement été aussi un peu jaloux comme toutes les personnes qui ont pu croiser ce compositeur exceptionnel à son époque, mais il n'est en aucun cas celui présenté dans le film Amadeus. Et Constance, après la mort de Mozart, elle va confier son dernier fils à Salieri pour qu'il lui enseigne la musique. Et on voit mal Constance confier un de ses fils au pire ennemi supposé de son époux. Pour terminer, je voudrais juste rappeler que Mozart meurt à 35 ans seulement, et que, comme sa correspondance nous le montre, et on l'oublie aujourd'hui, il passe presque 20 ans sur les 35 années de sa vie sur les routes à voyager. Mozart compose dans l'urgence, toujours avec plusieurs projets en même temps, de l'argent à trouver, on l'a vu, et qui manque, des employeurs pressés, des cours à donner qu'il n'aime pas. Et malgré toutes ces contraintes, ces pressions, il nous laisse une œuvre impressionnante. 893 œuvres sont répertoriées dans le catalogue Köchel. C'est le catalogue qui répertorie ses œuvres. Il embrasse tous les genres musicaux de son époque, la musique de chambre, des symphonies, des concertos, des opéras, des pièces religieuses. Donc c'est énorme en seulement 35 ans de vie, avec toutes les contraintes que j'ai essayé de vous montrer et à travers sa correspondance. Je vais vous citer deux personnes pour conclure. Le premier, c'est l'écrivain Alessandro Baricco, et j'aime ce qu'il dit à la fois de Mozart, mais aussi des autres compositeurs de musique qu'il cite. Mozart et Rossini travaillaient exactement comme on travaille à Hollywood, c'est-à-dire d'une façon apparemment exclusivement commerciale, sur commande et avec de nombreuses contraintes vraiment idiotes. On ne doit pas imaginer Mozart, Beethoven, Rossini ou Verdi comme des auteurs libres avec leur imagination, leur inspiration, leur fantaisie. Rien de tout cela. Ils étaient des machines à faire de l'argent et sous cette contrainte, ils étaient géniaux. Et puis l'écrivain Romain Rolland qui parle, lui, de la correspondance de Mozart. Il dit ceci: Je viens de relire ces lettres qui devraient être dans toutes les bibliothèques, car elles n'ont pas seulement un intérêt pour les artistes, elles sont bienfaisantes pour tous. Quand une fois on les a lues, Mozart reste votre meilleur ami pour toute la durée de votre vie, et sa chère figure se représente à vous d'elle-même aux heures de peine, on entend son bon rire enfantin et héroïque, et si triste que l'on soit, on rougit de s'abandonner en pensant à cette misère si gaiement supportée. Voilà, très belle citation, je trouve, pour vraiment qualifier ce compositeur exceptionnel. Il a eu une descendance, 6 enfants, mais 2 seulement vont survivre, 2 garçons, Carl Thomas, et puis le dernier qui est né en 1791, qui s'appelait Franz Xavier. C'est l'année où Mozart va décéder. Et Constance avait décidé avec ce petit garçon qu'il deviendrait un second Mozart. À l'âge de 2 ans, elle lui fait prendre des leçons de piano et de théorie. Elle va le mettre au service de professeurs les plus éminents, dont Salieri, je vous en ai parlé. Et elle va vraiment essayer de le mettre en scène. Il aura un premier concert public à 13 ans. On lui demande d'interpréter un concerto de son père. Il a eu trop conscience des attentes qu'on a portées sur ses pauvres épaules. Il signait ses œuvres, ce jeune homme, il signait Wolfgang Amadeus Mozart fils. Et ces 2 garçons de Mozart vont rester célibataires, il n'y a pas de descendance. Le plus jeune est musicien aussi, il était compositeur et chef d'orchestre. Constance, elle va se marier 6 ans après la mort de Mozart avec Georg Nikolaus von Nissen, qui était un admirateur éperdu de Mozart, et ce sera en fait le premier biographe de Mozart. Il ne terminera pas sa biographie, Constance se fera aider par 2 autres personnes pour la terminer, et cette biographie écrite par le second mari donc de Constance fait vraiment autorité aujourd'hui. C'est une des biographies, pas les plus complètes, mais en tout cas très importantes dans l'histoire. Voilà pour l'histoire de ce compositeur. Voilà, j'espère avoir pu vous montrer à quel point, voilà, quand on est compositeur, ce n'est pas que être tranquillement derrière son pupitre à écrire. Il y a toutes les contraintes de la vie. Et quand vous réécouterez du Mozart, eh bien, pensez encore peut-être à tout ce qu'on a partagé aujourd'hui sur ses conditions de vie, ce qu'il a pu traverser, ce qu'il a dû vivre, ce qu'il devait assumer, porter. Et malgré ça, 893 compositions, toutes plus géniales les unes que les autres, et qui sont encore plus émouvantes, je pense, à écouter quand on connaît ce contexte. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi avec du Mozart en tête. Et puis, on se retrouve le 15 avril. Le 15 avril, je vais vous proposer une conférence qui s'intitule Figurez les saisons en musique. On va parler des 4 saisons de Vivaldi. Et même si vous les connaissez par cœur, je vous assure que vous ne les écouterez plus jamais de la même façon. Parce que je vais vous pr les présenter d'une façon nouvelle, j'ai envie de dire, parce que peut-être que vous le savez, mais il y a des versets qui accompagnent ces 4 saisons qui sont écrits de la main de Vivaldi. Et on s'amusera à aller voir ce qu'il a écrit et voir comment on traduit ça en musique. Et on va parler des figuralismes musicaux. Et je vous assure, vous n'écouterez plus jamais ces 4 saisons de la même façon, même si vous les connaissez par cœur. Donc rendez-vous le 15 avril à 12h30. Et je prépare le replay, donc on vous l'enverra et vous pourrez réécouter cette conférence, ou en tout cas peut-être la partager avec d'autres personnes. N'hésitez pas à partager le lien, hein, parce que c'est vraiment fait pour ça, pour être vu et entendu. Je vous souhaite une belle après-midi à toutes et à tous. Merci. Et puis je vous dis à dans, eh bien, dans bientôt, 15 avril. Donc ça nous fait dans un petit mois, moins d'un mois. Hein, moins d'un mois. À 12h30. Merci beaucoup. Bon après-midi. Avec plaisir. Merci.